Merci à Ornella pour son introduction historique. Merci à Irène Di Giorio qui était là à distance aussi. On va passer au deuxième exposé qui porte sur les différentes expressions de caricature, le mode de diffusion de ces caricatures. Et donc j'accueille Catherine Boucaud et Laura Calabrese.
Alors, je vous propose pour commencer une petite définition, qui est une définition contemporaine, mais qui finalement a des échos par rapport à ce qu'on a pu voir d'un point de vue plus historique. Donc, c'est une définition plutôt sémiologique, qui est proposée par Anne-Marie Houdbin et Maë Pozas. Elles nous disent quoi ? Elles nous disent qu'une une caricature, c'est une déformation à charge critique, visible ou lisible, donc par des signes graphiques, iconiques ou textuels, et à effet de sens divers en réception, pour les effets humoristiques y compris. Alors j'ai souligné certains éléments en vert. Je vous propose de commencer par les deux derniers, qui insistent sur le fait qu'une caricature peut avoir des effets de sens, enfin les caricatures peuvent avoir des effets de sens divers. Alors ça ne veut pas dire qu'elles peuvent être interprétées de façon diverse, au contraire, on va le voir dans deux minutes. Ça veut dire qu'une caricature n'est pas forcément humoristique. Elle l'est la plupart du temps, mais elle ne l'est pas forcément. C'est pour ça qu'on insiste sur l'idée qu'on peut avoir des effets humoristiques y compris, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Donc l'effet humoristique n'est pas constitutif de la caricature. Ce qui est par contre constitutif, donc ce qui est vraiment indispensable pour que l'on puisse parler de caricature, c'est l'effet de distanciation. Ça, c'est propre à chaque caricature. Effet de distanciation, c'est-à-dire que la caricature va nous proposer une mise à distance critique du réel. Donc elle va nous proposer de prendre une distance par rapport aux événements d'actualité en le déformant. On a parlé aussi déjà tout à l'heure de déformation. Donc la caricature déforme le réel. Et très souvent, la caricature va déformer le réel en assemblant deux idées qui sont en général opposées. Donc on propose une dialectique entre deux éléments. Par exemple, je vous montre ici. Donc ici à droite, on a François Fillon, donc qui est un ancien ministre français. Donc on n'a pas l'habitude de voir François Fillon présenté comme une prostituée. Donc on a bien ici deux idées qui sont contradictoires, qui s'opposent, en tout cas dans sa vie publique, puisqu'on a un homme politique et une prostituée. Donc on a ici ce qu'on peut appeler une insolite de la rencontre, c'est-à-dire qu'on va se faire rencontrer deux idées qui, a priori, ne sont pas compatibles. Donc c'est de cette façon, souvent, que la caricature va déformer le réel. Alors, ce qui est important de bien prendre en compte, c'est que la caricature, elle est à l'opposé total de l'image mythique. Donc, rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, en quelques mots, une image mythique, c'est simplement une image qui nous propose une lecture du réel, qui serait naturelle. Donc, comme si le monde était comme ça, comme si les choses allaient de soi. Donc ici, on a une publicité qui nous montre que la femme se met au service de son mari, comme si c'était tout à fait naturel, comme si ça allait de soi, alors qu'on sait bien que c'est une construction culturelle, mais que ça n'a rien d'automatique que la femme soit au service de son mari. Donc la caricature, elle est à l'opposé total de cette image naturelle des choses. La caricature nous propose toujours un contrat de communication qui nous montre qu'il y a un point de vue sur le réel qui est assumé comme tel. Et ce contrat de lecture particulier est vraiment la condition sine qua non pour que l'on puisse comprendre une caricature. Donc une caricature, ce n'est pas du tout une œuvre ouverte dans laquelle on pourrait avoir différents sens possibles, où chacun d'entre nous pourrait avoir un sens, lui conférer un sens différent. C'est vraiment un outil de communication qui impose un contrat de communication bien précis. Alors, je vous propose quelques repères très rapidement pour analyser les caricatures. D'abord, au niveau du plan de l'expression, ça, on l'a vu tout à l'heure. Économie de moyens, on l'a vu avec la stylisation des portraits tout à l'heure. Je vais simplement alors vous proposer quelques figures de style qui sont utilisées en caricature et pour le dessin de presse. Les figures de style, ce sont des outils linguistiques qui peuvent être utilisés visuellement. Alors, le premier ici, c'est l'hyperbole. Donc, l'hyperbole, c'est quoi ? C'est une exagération. Donc, exagération des traits ou exagération par le texte. Donc ici, on nous présente Johnny Hallyday. Donc, on exagère déjà un petit peu ses traits. On a Sarkozy aussi, hein, en haut à droite, qui est aussi un petit peu exagéré physiquement. Donc, on nous dit qu'il est voleur comme un Français, con comme un Belge et chiant comme un Suisse. Bon, c'est subtil, mais on est bien ici dans l'hyperbole. Alors, autre procédé qui est extrêmement fréquent, qui est bien plus fréquent que les autres que l'on va identifier aujourd'hui, c'est la métaphore. Donc la métaphore, rappelez-vous, c'est le fait d'utiliser un objet concret pour exprimer une idée abstraite. Donc ici, on veut nous dire que Marine Le Pen est une candidate... Non, pas, non, justement, c'est pas qu'elle, qui est pas super, quoi. Donc une candidate plutôt... voilà. Et donc, on va nous présenter cette idée concrètement avec une vraie merde. Donc on associe le fait que quelqu'un est merdique, mais au sens figuré, évidemment, avec l'objet concret. Donc ça, Marine Le Pen avait moyennement apprécié, évidemment, cette caricature. Autre exemple de métaphore ici, on a l'objet concret de la marionnette pour exprimer l'idée abstraite d'être utilisé. Alors ici aussi, très très fréquent, donc objet concret, le crayon, pour nous exprimer une idée plus générale de liberté d'expression. Alors, l'ironie est un autre procédé, une autre figure de style fréquemment utilisée. L'ironie, c'est le fait que l'on exprime, on veut dire l'inverse de ce que l'on veut dire. Donc, ce que l'on dit est le contraire de ce que l'on veut dire, quelque part. Et donc, ici, c'est ce que l'on a. On regrette qu'il n'y ait pas d'attentat. Forcément, c'est ironique, puisqu'on ne le pense pas vraiment. Autre technique, synecdoque. Si vous vous souvenez, synecdoque, c'est le fait de prendre la partie pour un tout. Donc, par exemple, quand on dit « je bois un verre », mais je ne bois pas le verre, quoi. Donc ici, en termes visuels, on peut parler d'emblèmes signifiants, c'est-à-dire qu'on va reprendre certains éléments. Ici, c'est le turban et la barbe. On va reprendre ces éléments qui suffiront pour exprimer une idée visuellement. Et enfin, la comparaison, où on compare deux idées. Ici, on compare Éric Zemmour à Adolf Hitler. Voilà, je vais céder la parole à Laura.
Voilà, maintenant je vais passer à l'événement à proprement parler. Et donc, comme je me focalise sur l'événement, je ne peux pas uniquement analyser des caricatures, mais des dessins de presse, puisqu'il y a eu énormément de dessins qui ont circulé. Donc, ce que j'ai constaté pour cet événement en particulier, c'est que tout d'abord, c'est un événement unique à deux égards notamment. En premier lieu, il a été construit à la fois dans les médias d'information. Et dans les réseaux sociaux, oui, puisque les publics se sont réappropriés cet événement. Et puis, ça a été un événement d'image. On a vu circuler énormément d'images. Et donc, ces deux lieux de construction de l'événement sont évidemment liés, puisque c'est la réaction qu'ont eu les publics médiatiques qui a été la condition de possibilité de cette circulation massive d'images. Vous avez sûrement dû le voir dans vos propres réseaux. Alors, on a, disons, dans une première sémiologie sauvage que j'ai faite, j'ai pu identifier notamment deux types de dessins, que ce soit des caricatures ou des dessins de presse. Tout d'abord, les hommages, les hommages aux dessinateurs et à Charlie Hebdo, où on a vu énormément de crayons, tous les outils du dessinateur, et on a vu énormément de sang. Donc, tout ça, ce sont des métaphores, et on voit que... qui a un répertoire qui se répète et qui est assez limité, ce qui montre qu'on a des scénarios culturels qui nous viennent en aide pour penser le monde, pour penser les événements. Et donc ici, dans ce genre de dessin de presse, il y a des milliers d'exemples que vous avez sûrement vus, on réaffirme des images très fortes dans le monde occidental, donc le crayon versus l'arme à feu, qui évoque la plume contre l'épée, qui est un leitmotiv de la culture occidentale, la barbarie contre l'obscurantisme, ou la civilisation contre la barbarie. Et un deuxième type de dessin ou d'image, de dessin de presse, à savoir des détournements ou des réappropriations, que ce soit par les publics ou par des dessinateurs, où l'on voit là beaucoup plus de caricatures à proprement parler, et où l'on fait circuler des dessins parus dans Charlie Hebdo, mais on se les réapproprie et il y a des détournements. Ici, ce qui m'a intéressée plus particulièrement, c'est qu'il y a eu un énorme partage d'images, oui, chez les publics, et on a vu que ce partage qui a été massif a été rhizomatique également. Donc, il n'a pas suivi des trajets linéaires, mais des trajets non linéaires des nouvelles technologies de l'information et communication. À savoir que, dans un premier temps, vous avez vu circuler des images que vos amis ont partagées. C'est-à-dire qu'on est resté dans ces communautés discursives d'origine, d'accord ? Des communautés discursives qu'on connues. Et donc, ça veut dire que notre mémoire de l'événement va être façonnée par ces premières images que nous avons vues circuler dans nos réseaux. Et puis, peut-être dans un deuxième temps, nous avons vu circuler des images qui n'appartenaient pas à nos communautés discursives d'origine sur Facebook, sur Twitter. Et ce qui m'intéressait plus particulièrement, et c'était ça le message que je voulais faire passer ici, c'est que ces images fonctionnent comme des arguments, oui. Elles portent plusieurs couches de sens, elles font appel à des discours antérieurs, comme nos collègues l'ont montré dans l'exposé précédent. On ne s'est pas mis d'accord, mais donc cette pieuvre qui revient. Et donc ce sont des déclencheurs mémoriels. Je vais vous montrer un exemple. Bon, il y a eu énormément de dessins, comme celui-ci, où l'on réactive la mémoire du 11 septembre, sur fond de circulation de discours qui ont circulé lors du 11 septembre, par exemple les slogans « Je suis Charlie » comme « Je suis américain », vous vous souvenez, hein, lors du 11 septembre, ou bien les désignants d'événements qui ont servi à nommer cet événement, le 11 septembre français, un 11 septembre intime, là on ne voit pas très bien, c'est notre 11 septembre, oui. Donc ici on est dans ce qu'on appelle, dans le métalangage scientifique, l'interdiscours, ou bien l'inter-iconicité, hein, pour ceux qui font de la sémiologie, c'est-à-dire qu'on fait référence à des univers partagés, à des objets culturels que l'on connaît, et ce qui permet la connivence, la complicité, et ça sert aussi à donner un sens à l'événement, puisque ça fait appel à des événements que l'on a déjà connus, ça permet de comprendre, d'apprivoiser l'événement, on crée des familles d'événements. Pourquoi ? Parce que ces événements, comme le 11 septembre, il est disponible, il est très saillant dans notre culture, dans notre mémoire collective proche, et donc dans ce sens, le 11 septembre est un prêt-à-dire, oui, puisqu'il est déjà là. Mais le danger, c'est que ce soit aussi un prêt-à-penser, puisqu'il clôture aussi l'essence, il nous empêche d'aller au-delà et de peut-être proposer d'autres interprétations. Et donc, je vais peut-être finir sur ce slide, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, pour finir, juste dire que les images évoquent toujours des discours, des imaginaires, des événements, mais pas les mêmes pour tout le monde. Oui, et c'est ici que la notion de contexte devient centrale pour penser ces événements. Par exemple, une caricature de Charlie Hebdo vue par un lecteur de Charlie Hebdo ne fait pas événement puisqu'elle s'insère dans une série. Et donc, juste pour finir, donc, cette fameuse une de l'après-événement qui a été interprétée comme un Mahomet miséricordieux, oui, mais également comme un prophète moqué, oui. C'est ce que beaucoup de gens ont dit à la télévision, puisque ce qu'on met ici en question est le principe même de la représentation. Donc on ne peut pas le représenter au-delà du fait qu'il soit miséricordieux ou pas. Et cette image, ou bien cette critique, évoque à son tour le blasphème, l'ethnocentrisme européen, l'idéologie postcoloniale que l'on a vu circuler également dans d'autres types de dessins de presse, comme celui-ci qui appartient à un dessinateur brésilien. Donc voilà, je termine sur ce dernier slide. Merci.